Renault Scénic E-Tech 100% électrique, élue voiture de l'année 2024 par 58 journalistes venant de 22 pays et parmi 28 modèles de marques prestigieuses. C'est la 7e fois que Renault remporte ce prix, la 2e fois avec Scénic, et c'est une première mondiale pour une voiture électrique assemblée en France. Ça fait beaucoup de chiffres, mais le principal c'est que Renault Scénic E-Tech 100% électrique, allant jusqu'à 625 km d'autonomie, soit numéro 1.
Selon normes WLTP, plus d'informations sur Renault.fr. Pensez à covoiturer.
RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Bonjour à tous, Motors en direct jusqu'à 14h. Salut Jean-Luc Roy.
Eh ben salut Louis Amar, bonjour à tous.
À la une, le rallye, le 6e titre mondial de Sébastien Ogier. Il a triomphé cette nuit de Thierry Neuville et d'Ott Tanak en Australie. Vous l'entendrez dans quelques instants. Au programme également la moto, le Grand Prix d'Espagne à Valence, départ 14h. Maverick Vinales s'élancera en pole position. Et puis dans Radio Paddock Live, hein, à une semaine de la dernière course de la saison. C'est parti pour Motors, bienvenue à tous.
RMC Motors.
150 mètres,
3 tirs,
320.
Le briefing.
Et de 6 titres consécutifs pour Sébastien Ogier, sacré la nuit dernière en Australie, champion du monde des rallyes à l'issue de la dernière manche de la saison. Lucas Vinoy est avec nous. Salut Lucas.
Salut Louis, salut Jean-Luc.
Salut Lucas. Dans quelques instants, nous serons avec Jean-Pierre Nicolas, ancien pilote rallye, vice-champion du monde des rallyes en 1978.
Oui. Mousquetaire.
Mousquetaire, qui reviendra sur le nouveau sacre de Sébastien Ogier. On entendra également le tout récent champion du monde dans quelques minutes. Mais d'abord, Lucas, le récit de la nuit. On rappelle que la lutte pour le titre concernait trois hommes, Ott Tanak, Thierry Neuville. Et donc Ogier.
C'est ça, 22h38, départ de la 21e spéciale, Ogier 6e, Tanak 2e et Neuville 8e. À l'issue de cette spéciale, le classement général ne change pas, mais après la pause, à la mi-journée en Australie, tout est bouleversé. 1h du matin, la 22e spéciale débute et c'est l'événement. Thierry Neuville heurte un arbre, casse sa suspension et se voit contraint à l'abandon. Ogier continue lui sur son rythme, toujours 6e au classement. Tanak est alors 2e et surtout le seul à pouvoir priver le Gapensais du titre. 2h31, nouveau rebondissement puisque l'Estonien Ott Tanak perd le contrôle de sa voiture, heurte un arbre lui aussi et jette l'éponge. Sébastien Ogier est alors sacré pour la 6e fois de sa carrière et se paye même le luxe, tenez-vous bien, de remporter la Power Stage, ultime spéciale de cette saison 2018. L'adage finir en beauté est parfaitement respecté.
Absolument, merci Lucas, tu restes avec nous évidemment. Jean-Luc, il y a eu des circonstances favorables, on l'a entendu la nuit dernière pour Sébastien Ogier, mais ce titre, il est allé le chercher à la pointe de l'épée, vraiment.
Ah bah écoute, ça se provoque, hein, comme on dit, la malchance des autres. J'associe toujours Julien Ingrassia, si
bien
vous
sûr,
le voulez bien, on
n'oublie
jamais, voilà, qu'on avait eu dans Motors, d'ailleurs, il y a deux semaines, juste avant leur départ pour l'Australie. Écoute, oui, bah pour être champion du monde, et ça, Thierry Neuville doit méditer là-dessus et doit l'apprendre avec son coéquipier Kolsoul, parce que si on commet des erreurs, alors ils en ont commis une, hein, en Turquie, on le rappelait également hier, du côté de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, mais c'est la seule, on peut s'en permettre une, mais pas plus. Et là, on peut dire que Thierry Neuville en a commis malheureusement d'autres. Je pense qu'une nouvelle fois, c'est une victoire magnifique parce que il ne disposait ni de la meilleure voiture, c'est une évidence. D'ailleurs, le titre constructeur revient à Toyota avec la victoire de Latvala. Donc, ça démontre que collectivement, l'équipe Toyota, qui est extrêmement puissante, était meilleure. Et puis, on sait que l'équipe Hyundai, qui a des moyens quasi illimités également, donc ça veut bien dire qu'une nouvelle fois, Ogier et Gracia, par eux-mêmes, grâce à leur talent, ont réussi à faire craquer les autres. Et là, tu le disais, il a plu à un moment. La piste était une vraie patinoire, extrêmement glissante. Je dis la piste volontairement parce que c'était une piste, hein. C'est de la terre, donc ça devient une patinoire. Et Ogier a su rester parfaitement maître de son sujet, ne jamais mettre un pied à côté, ou une roue en l'occurrence, parce qu'il y avait beaucoup de dangers. Donc oui, les autres ont commis des erreurs, mais je pense que la pression que Ogier leur a mis, puisqu'il occupait cette 6e position, et que de toute façon, il était champion du monde s'il devançait Neuville.
Un autre adage que Sébastien Ogier a honoré, Lucas, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ils étaient trois avant ce week-end à pouvoir être champion du monde. Le titre n'en est donc que plus beau. Sébastien Ogier était ce matin l'invité de Réveil Matin Week-end, la matinale d'RMC Sport News. Écoutez-le.
Effectivement, ça a été une saison très intense où il a fallu se battre jusqu'au tout dernier rallye du championnat pour aller chercher le titre. Et on a rencontré des conditions encore compliquées ce week-end, mais on a réussi à passer au travers des pièges et marquer les points qui nous manquaient pour aller chercher un sixième titre. Donc c'est sûr que je me sens bien à l'heure actuelle et que c'est toujours difficile de trouver des mots, mais très satisfait d'avoir rempli l'objectif une fois de plus et empilé un deuxième titre avec mon équipe M-Sport avant de les quitter et de rejoindre Citroën début d'année prochaine.
On parlera de ce départ chez Citroën un petit peu plus tard. À ton avis, Jean-Luc, qu'est-ce qui a fait la différence cette saison pour Ogier ?
La constance. La constance, l'osmose avec l'équipe, et je crois que vraiment l'hommage qu'il leur rend, et il a tenu à citer évidemment le chef, le patron Malcolm Wilson, qui est un passionné incroyable, parce qu'on rappelle que cette petite équipe britannique, en l'occurrence, bénéficie d'un soutien de Ford, mais qui est vraiment parcimonieux, qui est très léger hein, par rapport à l'investissement, on vient de le dire, de Toyota, de Hyundai ou même de Citroën. Ça, ce sont des vraies équipes d'usine, alors que ça n'est pas le cas de cette équipe M Sport. Donc c'est vraiment une relation humaine également, et c'est ce qui avait entraîné d'ailleurs la décision, un peu à la surprise générale, d'Ogier, lorsque l'équipe Volkswagen a arrêté, on lui déroulait un tapis rouge, c'est le cas de le dire, dans toutes les équipes, et bien non, il avait choisi affectivement cette petite équipe de Malcolm Wilson, parce qu'on le désirait vraiment, on le voulait vraiment.
Lucas, c'est effectivement ça aussi le mérite d'Ogier cette saison.
Un bon choix de carrière hein, quand même, il faut le dire, c'est pas donné à tout le monde. Certains sports automobiles se sont trompés, mais lui on sent que c'est un vrai leader, il arrive à rassembler tout le monde autour de lui pour faire en sorte que l'alchimie prenne et aller chercher cette victoire. C'est vrai que quand on a une voiture qui est beaucoup moins performante que celle des autres, il faut aussi faire bloc avec son équipe, et on sent que lui c'est un meneur d'hommes, c'est un leader. Et puis ouais, c'est vrai que remporter une telle victoire avec un championnat très serré, trois hommes en lutte pour le titre avant le dernier rallye, ça n'était pas arrivé depuis 2003, rendez-vous compte. 2003, ça coïncide avec le dernier titre de champion du monde des rallyes qui n'est pas revenu à un Français, c'était Peter Solberg à l'époque.
Qui n'est pas retenu à un Seb. Alors, je voulais juste dire,
c'est vrai.
En termes du nombre de points, si on reprend les titres de Sébastien Ogier et Julien Ingrassia, à partir de 2013, 290 points, donc à chaque fois je vous donne l'année et le nombre de points, 290 en 2013, 267 en 2014, 203 en 2015, 268, et je voulais en arriver, chez Ford, 232 seulement l'an dernier, 219 cette année. C'est dire qu'il y a eu effectivement une dispersion de points, mais que lui et eux, ils sont toujours là.
Mais ça souligne aussi le mot constance dont tu parlais tout à l'heure, constance sur l'ensemble de la saison, et même constance d'une saison à l'autre. Alors on l'a dit, les circonstances, elles étaient extrêmement particulières. Ce week-end, trois hommes qui luttaient pour le titre, avec en plus de la pluie qui est tombée abondamment la nuit dernière en Australie, ce qui a rendu l'affaire plus vicieuse encore. Résultat, Sébastien Ogier, on l'écoute, a dû s'appuyer sur son expérience.
C'est jamais des situations évidentes à gérer, mais je pense que effectivement mon expérience et le fait d'avoir déjà 5 titres en poche m'a aidé à être plus serein et un petit peu plus relax que mes deux concurrents. Mais malgré tout, c'était compliqué parce que le rallye d'Australie c'est un rallye où les positions de départ ont beaucoup d'influence en gros sur nos performances. En étant leader du championnat, en arrivant ici, ça a été compliqué. J'ai pas mal souffert en début de course et perdu pas mal de temps, mais notre force a été de pas craquer, de pas faire d'erreurs et de maintenir la pression. Et finalement, nos deux concurrents ont fini par eux faire des erreurs pour nous ouvrir la voie sur ce deuxième titre.
C'est intéressant ce qu'il dit Sébastien Ogier, Jean-Luc. Notre force a été de ne pas craquer, de maintenir la pression. Ça vaut pour tous les sports, d'ailleurs, qu'ils soient collectifs et individuels. Mais finalement, on apprend à gagner aussi.
Mais exactement, la pression elle était évidemment dans le camp de Thierry Neuville et a fortiori d'Ott Tanak. Alors lui c'était un peu le joker hein, parce que on sait qu'il n'était pas dans le coup, sauf après il a aligné ses 3 victoires consécutivement, donc là il s'est remis dans le coup en termes de points au championnat. Et puis on s'est même posé la question, et on l'avait posé à Julien Ingrassia il y a 2 semaines dans Motors, de savoir pourquoi finalement ils avaient pris la tête, parce que il l'évoquait Seb il y a un instant, le fait de partir devant le premier jour était un handicap. Je crois que les points, quand on les là, il faut les prendre. C'est 3 petits points d'avance. Alors là, il a fait mieux que ça, puisque Lucas le rappelait il y a un instant. En plus, il a décroché la Power Stage pour montrer en disant, les gars,
qui voilà. Jusqu'au bout.
Et qui c'est le taulier? Je vous en mets une petite couche juste pour le plaisir. Là, moi aussi, je suis libéré de la pression. Maintenant, mon titre, je l'ai. Je me fais le plaisir, puis je vous démontre que j'en avais un petit peu sous le pied quand même.
Alors, vous l'avez dit, messieurs, on va plus parler de championnat du monde des rallyes. Ça, c'est totalement caduque. On s'en fout. Maintenant, c'est le championnat de France des rallyes qui nous intéresse, puisque depuis 2003, effectivement, non seulement il n'y a que des Français à avoir gagné ce championnat du monde, mais en plus que des Sébastiens. Comment on explique ça, Jean-Luc? Est-ce que c'est une coïncidence, un hasard de l'histoire, ou est-ce qu'il y a vraiment une école française du rallye qui nous permet cette hégémonie?
Alors, longtemps, le problème des Français, c'était qu'ils n'étaient pas assez rapides sur la terre, parce que le championnat de France des rallyes, il y a des épreuves sur terre, mais il y en a moins qu'ailleurs, où par exemple les Finlandais, traditionnellement, étaient plus rapides sur ce type de surface. Or, ça dépend évidemment du calendrier, de la manière dont il est réparti. Donc, il fallait être rapide sur la terre pour parvenir à être champion du monde. Or, là aussi, on a une génération de pilotes. Alors, il faut d'abord parler de ces phénomènes-là, parce que une nouvelle fois, quand on est la tête dans le guidon, on l'évoquait pour Hamilton, on l'évoquait jockey pour Marquez, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui domine comme ça une discipline, a fortiori de sport mécanique, on dit oui, mais il a le meilleur engin, la meilleure moto, la meilleure voiture, la meilleure équipe. Ben oui, mais faut toujours savoir que le meilleur engin, la meilleure équipe, ça va toujours au meilleur pilote. Donc c'est complètement logique. Là, il y a une adéquation qui est complètement rationnelle. Sauf exception, on vient d'en parler, et moi j'insiste là-dessus, et il ne le dira pas parce qu'il est modeste, Sébastien Ogier, pas ces deux dernières saisons. Parce qu'effectivement, il n'avait pas la meilleure voiture et pas l'équipe la plus puissante. Maintenant, je réponds à ta question, ben, je crois que ce sont deux phénomènes qui marquent totalement l'histoire des rallyes. Bon, Sébastien Loeb s'est fait depuis longtemps, et Sébastien Ogier est en train de le faire. 6 titres consécutifs, série en cours. Il a signé avec Citroën pour 2 saisons supplémentaires. Il va disposer, on va le voir, que la Citroën, elle est très rapide et que l'équipe est excellente parce qu'on va mettre l'équipage qu'il faut dedans. Donc, ben, je touche du bois. Hein. Faut pas vendre la peau de l'ours. Il y a quand même du monde en face. Mais pourquoi pas rêver? Et il doit en rêver. Alors après, il sera à 8. Est-ce qu'il ira jusqu'à...
Ça, on va y venir, puisqu'il nous a donné une info ce matin.
Mais c'est vrai qu'il faut prendre, du recul, et c'est pas toujours facile quand on vit à l'intérieur de cette époque. Mais 15 titres d'affilée pour des Français,
c'est génial.
Incroyable. En fait, il faut essayer de remettre les choses en perspective, de prendre un petit peu de recul. Et comme tu le dis, Jean-Luc, que ce soit Sébastien Loeb ou que ce soit Sébastien Ogier, quand ils sont à 100%, il faut que les autres soient à 120, 125. Alors de temps en temps, ils se font battre, mais la plupart du temps, et on l'a constaté avec les adversaires de Loeb ou même avec les adversaires d'Ogier, souvent ils partent à la faute parce qu'ils les explosent. Ça va trop vite devant, ça va trop vite. C'est comme un échappé en vélo ou en montagne. Si vous allez trop vite derrière, il explose, et c'est ce qui se passe avec les adversaires des deux Sébastien.
Mais au-delà du talent naturel et immense de ces deux pilotes, pardon, j'y reviens, est-ce qu'il y a une école française du rallye, une excellence française en la matière, qui permettrait de faire perdurer cette domination au-delà des talents exceptionnels qui pourraient émerger?
On en rêve, mais il faut toujours l'engin pour permettre d'éclore. Et là, c'est vrai qu'on a un petit peu de mal. On sait bien en France, malheureusement, la situation des sports mécaniques, qui est très difficile. Hein. D'ailleurs, on dira un mot de moto tout à l'heure, mais à moto, Quartararo vient de terminer sixième de la juste du Moto2 à l'instant. Mais je veux dire, l'an prochain, on n'aura que 2 pilotes en MotoGP et plus de pilotes. Et c'est pas la faute de la fédération. Là, je n'incrimine personne, mais on sait que la situation est difficile. Donc, école des rallyes. Oui, si tu veux, il y a d'autres jeunes pilotes de talent en France. Maintenant, s'ils n'ont pas l'engin, eh bien, s'ils ne sont pas placés dans les conditions optimales pour éclore, malheureusement, ils passeront peut-être à côté de leur carrière. Et on devrait avoir Jean-Pierre Nicolas dans un instant, qui faisait partie, donc je le disais, des mousquetaires de l'équipe alpine à l'époque. Parce que, alors, le championnat du monde en tant que tel n'existait pas, mais il y avait quand même des rallyes internationaux. Sinon, ils auraient été évidemment champions du monde. C'était les 4 mousquetaires de cette grandiose équipe. On peut dire que oui, aujourd'hui, le championnat, je vais répondre aussi à ta question, et permet d'avoir également une expérience sur Terre, donc ça permet d'avoir effectivement une compétitivité sur tous les types de surfaces.
Sébastien Ogier, justement, ce matin, dans Réveil Matin Week-end sur RMC Sport News, s'est exprimé au sujet de cette domination française qui s'étire.
Je pense que la pression, elle est plus sur nos concurrents, parce qu'effectivement, c'est une sacrée domination française depuis 15 ans. Il y a peu de chances que ça se reproduise un jour pour une autre nation, donc il faut savourer ces moments-là déjà. Après, bien sûr que ce nouveau challenge l'année prochaine avec Citroën, il est excitant et ne sera pas simple à relever. Il va falloir repartir un petit peu de zéro pour nous, se recaler dans une voiture qu'on ne connaît pas, face à une concurrence qui est redoutable en ce moment. On s'attend à une belle compétition, mais on est impatient de relever le nouveau défi qui nous attend.
Est-ce que ça sera dur aussi chez Citroën, Jean-Luc, ou est-ce que finalement il a mangé son pain noir, même si c'est étrange de le dire comme ça après 2 titres mondiaux?
Ou son pain blanc, tu veux dire, au contraire?
Justement, est-ce qu'il a vécu des saisons difficiles avec M-Sport et que finalement les titres qu'il est allé conquérir sur les 2 dernières saisons sont plus difficiles que ceux qui l'attendent peut-être avec Citroën?
Tu veux mon avis? Moi je pense que là il a compris qu'on le voulait vraiment chez Citroën, et par parenthèse, et j'ose le dire, même si maintenant on l'a signé, si on l'avait signé il y a 2 ans, je peux te dire que les 2 titres mondiaux, là, il les aurait déjà apportés à Citroën. Parce que moi, j'y crois absolument. C'est une équipe qu'il connaît. On rappelle, et on va pas revenir, c'est une époque différente, mais il est parti de chez Citroën parce qu'il avait compris que c'était l'équipe avant tout de Sébastien Loeb, et qu'il serait toujours dans l'ombre de cet ogre-là, ce premier-là qui alignait les titres. Donc il a, et ça, c'est une réaction d'orgueil, il a tout misé sur Volkswagen en rappelant une première année en WRC2, c'est-à-dire avec des petites voitures, en sachant qu'il
Skoda, ouais.
Voilà, en, en sachant qu'il ne pourrait pas gagner, mais que il expérimentait et développait la voiture à venir, et puis après il aligne les quatre. Non, c'est un champion absolument exceptionnel. Moi, je pense que Citroën va lui donner l'outil pour continuer à gagner, et je pense que l'outil existe, mais là aussi, bah, c'est un peu comme à moto, tu sais, en matière de rallye, le pilote, l'équipage est beaucoup plus important qu'il ne l'est en Formule 1, disons-le.
6 titres pour Sébastien Ogier, il faudrait encore 3 saisons minimum pour arriver au niveau de Sébastien Loeb, mais c'est pas sûr qu'il les fasse, ces 3 saisons, Sébastien Ogier, écoutez-le.
Alors d'aujourd'hui, je viens de signer un contrat de 2 ans pour Citroën, que je vois comme être mon dernier. Et du coup, ça veut dire que même si je réalise 2 ans parfaites, ça fera que 8 dans tous les cas. Donc c'est arrêté, je veux dire, à ne jamais dire jamais, mais c'est en tout cas le plan de carrière que je me suis fixé pour le moment. Pour moi, voilà, aujourd'hui, c'est le plan que j'ai. Après, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver dans la vie, hein, mais pour l'instant, j'ai envie de peut-être passer à autre chose. C'est vrai que c'est quand même éprouvant, cette saison en WRC, et y a plein d'autres belles choses à faire dans la vie aussi.
C'est éprouvant, mais quand on est à une saison ou deux du record absolu, fait peut-être un petit effort, non ?
Je pense que c'est l'envie. S'il a toujours l'envie, il s'était posé quand même la question aussi, après l'époque Volkswagen, donc c'était tôt, il y a 2 ans déjà, de s'arrêter. Hein. Il l'avait dit. Il l'a dit l'an dernier également. Il a dit, je vais voir, parce que tout le monde le sait, il est très heureux en famille, il a maintenant une petite fille, il a envie de faire autre chose de sa vie, parce que c'est très impliquant. Il y a 13 rallyes, les recos, les essais, etc.
Il y a un petit côté Rosberg dans cette annonce.
Oui, exactement. Alors, il aura 34 ans, là, dans quelques jours, le mois prochain. Bon, il a encore tout l'avenir devant lui. Je pense que tant qu'il aura l'envie, tant qu'il y aura la petite lumière dans les yeux, avec Julien, je le répète une nouvelle fois, parce que c'est une belle symbiose tous les deux, et je crois que c'est une victoire d'équipe dans tous les sens du terme.
Mais c'est vrai qu'on a eu la chance de le rencontrer au Tour de Corse cette année, et il aime ça le rallye, mais on sent poindre une petite forme de lassitude. Ça fait longtemps qu'il est là, c'est très exigeant, c'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'essais, c'est beaucoup de tests, c'est beaucoup de temps passé loin de sa famille. Et en discutant avec lui, on s'est rendu compte que ça lui pesait justement ce rythme-là.
Oui.
Sébastien Ogier, il a besoin d'être proche de sa famille. Et c'est vrai qu'il a beaucoup d'autres challenges qui peuvent l'attendre après. Il a testé une Formule 1 à l'époque.
Alors
ce sera pas en Formule 1, mais
non.
Peut-être du rallycross, peut-être du rally raid aussi, à l'instar de ce qu'a fait Sébastien Loeb. Donc voilà, il y a plein d'opportunités qui sont devant lui, et il veut les saisir, et aussi ne pas faire l'année de trop en rallye, ne pas se forcer.
Et puis je rappelle un élément, et je touche du bois comme toujours en le disant, c'est très dangereux.
Aussi, bien
c'est
évidemment.
Extrêmement dangereux, ce sont des milieux naturels, et on sait que malgré la progression considérable de la sécurité active sur les machines, ça reste un sport très dangereux.
On accueille notre invité Jean-Pierre Nicolas, ancien pilote, vice-champion du monde des rallyes, 1978. Bonjour Jean-Pierre Nicolas. Oui.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans Motors.
Oui.
Avant tout, est-ce que vous êtes impressionné, vous aussi, par la performance signée par Sébastien Ogier la nuit dernière en Australie ?
Ben oui, parce que grande victoire, il est sur les traces de Sébastien Loeb. Et puis, ça fait toujours plaisir de voir un Français qui prend la relève, qui porte très haut les couleurs du rallye français. Il a ça dans la peau. Moi, je l'ai connu à ses débuts. Il était jeune pilote même un petit peu avant. Il était mécanicien au lycée Roger Clos à Clermont-Ferrand. Et dans cette classe où on apprend la mécanique de voitures de compétition, ça lui a donné envie. Et l'année d'après, il commençait à participer à la Coupe 206 qu'il a gagnée. Et ensuite, il a eu un volant semi-officiel. Et puis après, il a commencé à être champion. C'est parti comme ça. Donc, c'est un gagneur, quoi. Alors, quand je vous entends, et c'est vrai qu'il est pas loin. Et en 3 ans, est-ce que... Il peut tenir 3 ans, parce qu'à son âge, on n'est pas vieux à 40 ans pour faire du rallye. Hein. Donc, il peut arriver à faire jeu égal avec Loeb, et on aurait comme ça, en France, les deux meilleurs pilotes mondiaux de tous les temps.
Et voilà, et on en a eu déjà des grands, hein, Jean-Pierre. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Écoute, je le rappelais tout à l'heure, tu as fait partie de la grande épopée des mousquetaires chez Alpine. Alors, la question que posait Louis tout à l'heure, et je te la pose aussi, et qu'est-ce qui fait que vous êtes tous aussi rapides, les pilotes français, en rallye de championnat du monde, même si évidemment les conditions ont changé. Mais on se rappelle de l'équipe formidable que tu formais. Alors, il n'y avait pas de titre de champion du monde, malheureusement, à l'époque, mais autrement, vous les auriez décrochés aussi.
Alors, nous, on est les premiers champions du monde en sport auto français avec l'équipe Alpine, Terrier, Dernier, Chandruet et moi. Ça, c'est le premier titre de champion du monde en 73. Ensuite, il y a eu Didier Auriol,
oui,
qui a fait une superbe carrière, faut surtout pas l'oublier. Et puis après, ben, en France, on a eu des Delecourt, des Panizzi, des Brian Bouffier, qui a pas de titre mondial, mais là, qui a quand même gagné des Borali. Mmh. Et alors, les deux stars, ben, ils sont là en ce moment, voilà. Alors, pourquoi ça? Moi, d'après moi, je pense qu'en France, on a la chance d'avoir eu des constructeurs très engagés en sport auto. Et en plus, la plupart de ces trois constructeurs français, Peugeot, Citroën et Renault, avaient mis en place des formules de promotion qui permettaient à des jeunes pilotes de se révéler et dans des conditions pas chères. C'est le cas de tout cela. C'est le cas de Panizzi, de Delecourt, c'est le cas de Sébastien Loeb, c'est le cas de Sébastien Ogier. C'est pas des fils de banquiers, c'est pas des fils de riches, c'est des gens qui ont gravi échelon après échelon, ils en ont basé, et grâce aux formules de promotion de tous ces constructeurs, eh bien, ça a permis de faire éclore de jeunes talents français. Et ensuite, la fédération française aussi, très souvent, après que ces jeunes pilotes ont gagné leur formule de promotion, ben, la Fédé les a aidés.
Jean-Pierre Nicolas, l'ancien pilote de rallye, l'invité de Motors en direct sur RMC, Jean-Luc.
Oui, Jean-Pierre Nicolas, j'ai envie de te parler évidemment de Julien Ingrassia aussi, parce que c'est un véritable couple, on le disait, en plus avec 13 épreuves de championnat du monde, avec le temps passé, effectivement c'est une symbiose avec un copilote. Tu peux nous parler de ça, parce que les risques sont les mêmes, c'est une évidence absolue, mais il faut vraiment que les notes tombent au bon moment, c'est plus que ça, hein.
Il prend exactement les mêmes risques, mais comme tu dis, c'est une véritable symbiose. Et si on remarque, ben chez Loeb, c'est pareil, c'est Loeb et Léna.
Oui.
C'est Ogier et Ingrassia. C'était Walter Röhrl avec Christian Geiserfer. Mm. Walter Röhrl, pour les amateurs,
et oui,
ça reste...
La grande époque Audi, les quattro.
la grande époque Audi et... Peut-être, c'est difficile à dire parce qu'on ne peut pas comparer les époques différentes. Walter est au niveau de Loeb, il est au niveau d'Ogier, c'est la crème. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit des couples, Darniche, Maé, voilà, les plus grands sont passés par là.
Alors, dernière question, Jean-Pierre, parce que le temps file, c'est comme toujours. L'avenir avec Citroën, évidemment, tu as été patron de l'équipe Peugeot, hein, justement, de l'équipe Peugeot Sport. Donc, ce sont les cousins, vous connaissez bien. On l'évoquait tout à l'heure. Est-ce que tu les vois, continuer sur cette voie royale? Savoir s'ils vont être à nouveau champions du monde, je ne sais pas, mais ils vont avoir une bonne voiture, c'est clair. L'équipe, tu la connais. Ça peut continuer, la belle histoire.
Ben, l'équipe, c'est sûr que l'équipe est bonne. C'est une équipe qui a été formée. Mise en place par Guy Fréclin, même aujourd'hui, c'est toujours en place, hein. C'est Guy qui a initialisé tout ça. L'équipe est bonne, la voiture me semble plutôt très bonne, et pour gagner, manquait le pilote. Là, avec Sébastien Ogier, moi, je vois pas comment ils seront pas champions du monde l'année prochaine.
Bon, au moins, c'est clair.
Merci Jean-Pierre Nicolas d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup Jean-Pierre.
Merci d'avoir été.
Allez, à bientôt.
En direct, l'invité de Motors. 13h27, en direct, en courant ce début d'après-midi. Salut Morgane Maury.
Bonjour à tous.
C'est du ski, le premier slalom masculin de la saison de Coupe du Monde à Lévis, en Finlande.
La deuxième manche vient de débuter. Huit skieurs sont arrivés en bas de la piste. Deux sont sortis. On attend quatre Français dans cet exercice. Jean-Baptiste Grand, Julien Lisou, mais surtout Victor Muffagendé, quatrième de la première manche, et Clément Noël, 21 ans, le Vosgien, à 38 centièmes du meilleur chrono, l'Autrichien Marcel Hirscher.
Ça sera dans 20 minutes, un petit peu plus, et on suivra ça évidemment en direct avec toi. Jean-Luc Roy, tu restes avec nous. Lucas Vinois, on se retrouve tout à l'heure pour la F1. Dans un instant, la moto avec Benoît Boutron, dernier Grand Prix de la saison, qui part à 14h. Vous suivrez ça sur RMC, à tout de suite.
RMC Motors, avec Motorsport TV. RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean-Luc Roy.
Il est 13h30 sur RMC, vous écoutez Motors, merci d'être avec nous. À 14h, vous aurez rendez-vous avec Christophe Cessieux pour l'Intégral Sport. Dans un quart d'heure, Radio Paddock, avec notamment de la F1 à une semaine du dernier Grand Prix de la saison à Abu Dhabi. Mais tout de suite, la moto.
RMC Motors, le
Tour de Chauffe.
Avec Benoît Boutron. Salut Benoît.
Salut à tous.
Salut. Dernier Grand Prix de F1 dans une semaine. Dernier Grand Prix moto aujourd'hui. Et oui, on essuie une petite larme. Les saisons se terminent. Ça se passe à Valence, et Benoît, ouais. Avec des qualifications à rebondissement hier qui ont vu finalement Maverick Vinales s'emparer de la pole.
Et c'est un réel événement. C'est la sixième pole de sa carrière pour le pilote Yamaha, mais c'est seulement la première depuis le Grand Prix d'Aragon. En septembre 2017, ça c'est un moment qu'il courait après cette pole position. On a eu des qualifications fantastiques, comme d'habitude en MotoGP. Une chute pour Marc Marquez, une chute pour Johann Zarco. Marquez s'est encore fait mal à l'épaule, rappelez-vous que lorsqu'il avait célébré son titre de champion du monde, il a été félicité par Karl Crutchlow, crac, il s'est démis l'épaule.
Les risques du
métier. On lui a remis, non mais il est incroyable ce mec. Il est remonté sur sa moto et il a tout de même signé le cinquième temps. On va vous donner juste la première ligne. Vinales devant Rins et Dovizioso. Marquez partira donc cinquième, Zarco onzième. Mais quel spectacle encore une fois Jean-Luc hier en qualif.
Écoute, ce sont des équilibristes absolument fabuleux parce que les conditions météo étaient extrêmement mauvaises et il pleut d'ailleurs encore aujourd'hui, on l'a vu pour les courses de Moto3 ouais. et de Moto2, donc la piste devrait rester humide et la piste allait en s'asséchant. Et là, comme il l'a dit lui-même, après sa chute, comme tu l'as... C'était pas un tour où il attaquait. Bah non, t'as raison. Donc, il était de mémoire dans le virage numéro 4. Alors, au départ, la chute se passe plutôt bien. Et c'est pas du côté où il s'est fait mal, effectivement. Mais dès qu'il arrive dans le sable, bah, il se met à rouler. Et là, on comprend tout de suite, parce que là aussi, c'est peu de dire que c'est pas un douillet. Marquez, il se relève et là, il se tient comme s'il avait une clavicule fracturée où on se dit aïe, aïe, aïe. Ou l'épaule déboîtée. Ça pourrait être le cas. En tout cas, il monte sur une petite moto qu'il attendait. On le ramène.
Ça, c'est toujours spectaculaire en MotoGP.
Oui.
Ah ouais, le mec qui tombe, qui monte vite sur un scooter pour retourner au stand et prendre sa moto de rechange.
Il descend. Ouais. On le fait monter dans le motorhome Honda. Bon, ouais. Là, moi, le premier, il reste 6 minutes 30 dans lesquelles je me dis, bon, là, c'est fini, quoi.
Mais non!
Il redescend, tel le Phoenix. Il monte sur la deuxième moto et il va signer le cinquième temps. C'est absolument ahurissant. Ces types-là sont des héros. Il n'y a pas d'autre mot.
Et ce qui est dingue à propos de cette histoire, c'est que Marc Marquez explique lui-même que avant de regagner son motorhome, il s'est demandé en piste s'il pouvait pas se remettre lui-même la clavicule comme ça dans un coin sans se faire aider. Et tout ça, moi c'est ça qui m'impressionne le plus chez ce garçon, avec le sourire. Mais on a l'impression que quoi qu'il fasse, même s'il a une épaule déboîtée, même s'il se fait mal, bah il s'amuse. Mais et c'est très rare.
Ils prennent tellement de plaisir. Écoute, je peux citer une expérience personnelle. Moi, j'ai les deux épaules complètement foutues à cause de chutes de moto. Mais c'est insensé de penser à chaque fois, au moins les 3 semaines au moins, à se remettre en haut. Enfin, c'est un autre monde. Mmh. D'abord, ce sont des athlètes absolus. Je crois qu'il faut le rappeler parce que manier une moto de Grand Prix qui fait pratiquement 300 chevaux aujourd'hui avec les changements d'angle et puis avec les multicaméras, on a tous vu ces images ou les glissades. Et puis Marquez a cette capacité, on le rappelle l'an dernier pour la finale, dans la première courbe, dans le virage numéro 1, le grand gauche qui passe à peu près à 160-170 km/h, non seulement il se rattrape avec le genou, mais avec le coude récupère et il continue. Non, là on est dans un autre monde, là ce sont des magiciens.
Une connexion parfaite avec sa moto, quoi.
Mais écoute, je crois que quand on observe, ils sont tous excellents, on va pas surtout voir, il a une opposition formidable en MotoGP, il y a Dovizioso, il y a bien sûr Rossi qu'on n'oublie surtout pas, non, à 39 ans, qui est toujours aussi talentueux. Bref, on va pas tous les citer, mais je crois qu'il fait corps avec sa machine comme aucun autre. D'abord son format, j'allais dire son physique le lui permet, il est intégré et il décèle, et on le voit avec effectivement les loupes, avec les milliers d'images secondes, on le voit à l'amorce d'un début de glissade, soit de l'avant, maintenant c'est beaucoup de l'avant, soit de l'arrière, il est déjà en train d'essayer de la rattraper, et je pense que c'est ce millième d'avance de seconde qui lui permet d'être légèrement au-dessus du lot aujourd'hui, il faut le dire.
Jean-Luc, sans te faire offense, tu en as vu un paquet maintenant, des jeunes pilotes talentueux.
Tu me fais pas offense, tu me fais plaisir.
où tu le situes, Marc Marquez, par rapport à ceux que tu as vu émerger au fil de ta carrière?
Alors écoute, c'est toujours pareil, on a du mal à comparer les époques parce que les machines étaient différentes. Bien sûr. Il faut bien savoir que maintenant elles sont beaucoup plus puissantes que ne l'étaient les 500 Grand Prix de temps, par exemple, qui étaient des monstres. Mais aujourd'hui, il y a malgré tout une légère assistance au pilotage, un léger anti-patinage qui est commun pour tout le monde. Et ça, encore une fois, ça ne diminue en rien le talent. Oui. On va dire que les machines sont peut-être un peu moins brutales. D'ailleurs, à la grande époque, la terrible époque des Grand Prix 500 avec les moteurs de temps, on disposait peut-être que d'environ 200 chevaux, mais ça arrivait avec une brutalité absolue et on voyait les fameuses chutes, les fameux high side, tu sais, où au moment où le pilote remettait la puissance, eh bien la roue arrière partait, et puis le réflexe du pilote instantané dans la tête, c'est de forcément rendre la main avec la poignée de gaz. Du coup, la roue arrière reprend de l'adhérence, les suspensions sont compressées et le pilote volait en l'air vraiment comme une marionnette. Donc voilà le type d'accident qu'on a connu. Mais il est évidemment du niveau des plus grands, de Michael Doohan, pour reprendre un pilote Honda dans les années 90,
de Kevin Rossi, Ford,
de Kenny Roberts. Alors, j'allais y venir parce qu'ils sont face à face, bien sûr. Alors, il reste devant avec ses 9 titres de champion du monde, lui aussi, Valentino Rossi, mais on peut dire que là, il est en train quand même de les enfiler comme des perles, et que on voit mal, là aussi, moi je vais me lancer, hein, s'il dispose toujours d'une machine à sa main, et on voit que Dani Pedrosa, dont c'est la dernière course, et il faut lui rendre hommage à nouveau, qui n'a malheureusement lui jamais réussi à décrocher un titre, parce qu'il est toujours tombé sur des monstres. Les monstres s'appellent Marquez, au sein de sa propre équipe, chez Honda, ou Rossi, évidemment, Rossi qui a un petit peu voyagé. Alors le seul échec de Rossi, j'allais dire, c'est Ducati. Il n'est pas parvenu. Alors il y a Cassé Stoner, donc, qui était en pilote d'essai de développement, là aussi, pour Honda d'abord, qui a mis fin brutalement à sa carrière. Tiens, alors lui aussi, qui aurait certainement pu décrocher d'autres titres de champion du monde. C'est un pilote extraterrestre à tous les niveaux, Cassé Stoner. Donc je réponds à ta question, il est tout simplement du niveau des plus grands. Et alors lui, je ne l'ai jamais vu rouler à moto, Mike Haywood. On est obligé d'évoquer ou Giacomo Agostini, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, comme on a beaucoup discuté, c'était au circuit de Charade. 15 titres de champion du monde qui restent, je pense que oui, Marquez, il est de ce calibre là c'est un des plus grands, tu vois, j'en ai des frissons en parlant, tellement ces gens là sont pour moi exceptionnel et au-dessus du lot, parce qu'il faut le rappeler, il y a un risque physique tout le temps, il y a un risque absolu et ils le prennent.
Et la saison prochaine va être fantastique, puisque chez Honda on aura Marc Marquez et Jorge Lorenzo, arrive chez Honda, ça va être fantastique.
Ça va être fantastique. Un mot quand même de Zarco, on a évoqué sa chute, du coup il se retrouve mal placé à Valence, alors que c'est un Grand Prix qui lui avait bien réussi la saison dernière.
C'est un pilote qui aime bien ce Grand Prix de Valence, effectivement, il fait une bonne saison, on va quand même le reconnaître, Johan Zarco, et c'est surtout ça y est, sa dernière course chez Yamaha, puisqu'il va changer d'écurie, on le rappelle, il va avoir une moto d'usine KTM l'année prochaine. Petit événement pour lui aussi, c'est vrai qu'il y a eu cette chute, il a tout de suite rassuré lui aussi, rien de grave pour la chute.
Pourtant il est tombé vite.
Il est tombé vite, mais tout ira bien pour la course de tout à l'heure, a priori.
Et il avait allumé en rouge les deux premiers secteurs, c'est-à-dire qu'au moment où il a chuté, c'est la prise de risque, ce dont nous parlions, avec une piste qui était très glissante, il était peut-être en mesure de monter sur la première ligne, ou peut-être la pole dont il avait hérité, on s'en souvient, lors du dernier Grand Prix en Malaisie, puisqu'une pénalité avait frappé Marquez, et il avait mené ce début de Grand Prix. Ça y est, il a les épaules, c'est le cas de le dire, Johan. Et il va y avoir du boulot de développement avec la KTM, je pense qu'il le sait. Mais je crois en lui aussi, parce que c'est un pilote qui est mature, qui est d'une lucidité, d'une constance et d'une modestie à toute épreuve.
On termine rapidement avec les résultats du Moto 2 et du Moto 3.
Oui, le Moto 2 qui s'est achevé il y a quelques minutes avec la victoire du Portugais Miguel Oliveira. Il s'est imposé sur une piste détrempée, effectivement. C'est la victoire donc pour lui. Iker Lecuona, l'Espagnol, qui décroche son premier podium, termine deuxième. Un petit mot de Quartararo, puisque lui, il va grimper aussi. C'est sa dernière course en Moto 2. Il sera en Moto GP la saison prochaine. Il a fait une belle course parce qu'il est parti fond de grille et il termine à la sixième place. Une année un peu décevante pour lui, mais il a quand même eu quelques perfs. Fabio Quartararo, on a hâte de le voir dans la catégorie reine.
Et il se battait avec le fils Gardner, parce qu'il y a quand même un Robert, c'est un Gardner, je parlais de grand champion. J'oublie pas Wayne Gardner aussi, qui était un Australien formidable chez Honda.
Et on a une histoire de fou en Moto 3. Première course et première victoire pour le Turc Kaan Onkou. Il a seulement 15 ans, c'est le plus jeune pilote à gagner en Moto 3. Première course, il gagne, c'est énorme pour lui au Grand Prix de Valence.
Et ils sont deux frères, je sais même pas s'ils sont pas jumeaux d'ailleurs, en tout cas ils se ressemblent beaucoup, ils roulent ensemble, ils roulaient dans la petite formule KTM Red Bull, il faut l'appeler par son nom, et donc là ils enfonçaient tout, mais là effectivement le voir débarquer, d'ailleurs c'était marrant de voir son frère qui était dans les stands et qui,
15 ans et 115 jours,
magnifique,
et déjà une victoire.
Nous on gagnait pas des Grands Prix moto.
Ah non, ça c'est ça.
Vaut mieux pas savoir.
Est-ce que tu sais de la moto, toi? Pas
non, non, je faisais rien à 15 ans et 115 jours, je faisais
rien. Tu faisais autre chose,
j'essayais. Morgan Mori, le premier slalom masculin de Coupe du Monde de la saison, c'est du ski, c'est à Lévis en Finlande.
Et c'est un Français qui est en tête, Jean-Baptiste Grange, meilleur temps de la deuxième manche pour le double champion du monde de slalom, 27 centièmes d'avance sur un Suisse, Tanguy Neff, et troisième place pour Julien Liseroux à 46 centièmes de son pote Jean-Baptiste Grange. Mais les gros calibres du slalom pointent le bout de leur bâton. Bon, deux Français, Victor Mufajandé, quatrième de la première manche, Clément Noël, 21 ans, troisième de la première manche, suivront Henry Christophersen et Marcel Hirscher, l'Autrichien Hirscher qui a été le plus rapide ce matin lors du premier exercice.
Merci Morgan. 13h40 sur RMC, dans un instant, Motor 14 se poursuit avec les dernières nouvelles en Formule 1 et puis un accident terrible ce matin en Formule 3. On vous raconte tout ça dans Radio Paddock. À tout de suite.
32 16 touche 1, réagissez en direct sur RMC. RMC, 13h-14h, Motors, Louis Amar, Jean Lecroix.
13h43 sur RMC, merci d'écouter Motors. On est avec Jean Lecroix, avec Lucas Vinois, avec Benoît Boutron pour Radio Paddock. Dans un instant,
la Dream Team.
Motors, la Dream Team, Motors en direct jusqu'à 14h. Vous avez rendez-vous avec Christophe Cessieux et l'Intégral Sport ensuite. Une fois n'est pas coutume, on termine l'émission par l'F.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Bah là c'est bon. Là oui. On a le bon son là.
Exactement. Non mais qu'est-ce c'est que
Hamilton,
qu'est-ce que c'est que ce sport où les Français ne gagnent pas et où on dépasse pas. Voilà, relégué en fin de Motors, on
la
en parle
la saison
plus.
Prochaine je promets Louis.
Mais oui, bien sûr, la saison prochaine, l'herbe est toujours plus verte l'année suivante. Benoît, Radio Paddock avec donc de la F1 ouais. Et une info mercato.
Une info principale effectivement, c'est Robert Kubica qui devrait signer chez Williams. Rien n'est officiel pour l'instant, mais ça devrait se faire effectivement avant la fin de saison 2018. On rappelle que Kubica est un pilote polonais, il avait deux offres, soit signer pilote titulaire chez Williams, soit être troisième pilote chez Ferrari, et apparemment il a choisi Williams, ce qui arrange un peu Williams qui a des soucis d'argent, puisque Kubica viendrait avec des sponsors à hauteur de 20 millions d'euros, donc c'est quand même pas négligeable hein, Jean-Luc.
Alors pourquoi on vous parle de Kubica et pourquoi je tiens à mettre l'accent là-dessus, c'est intéressant à deux titres. D'abord parce que ça confirme qu'Esteban Ocon n'aura pas de baquet la saison oui, prochaine. C'était le dernier doute à lever, c'était oui. Ce baquet chez Williams. Et puis parce que Kubica, il faut y venir, a une histoire absolument incroyable, vu qu'il a pu piloter en F1, en tout cas en Grand Prix, depuis quasiment 8 ans, je crois. Voilà Jean-Luc.
Alors oui, il avait un contrat Ferrari en poche, c'est ce qu'il se disait, ce qu'il a lui-même dit, et je crois que c'était vrai. Malheureusement, il n'a pas pu l'actionner parce qu'il a participé pour son plaisir, parce que ce Polonais qui est un garçon assez discret, hein, c'est pas une star des médias, enfin, sauf chez lui, là, en Pologne, vraiment, c'est un dieu vivant, il a toutes les raisons. Il a été atrocement blessé au bras droit et à l'épaule droite dans cet accident de rallye, on a même failli l'amputer, mais courageusement, il s'est battu, il a fait des mois d'hôpital de rééducation, il a repris le volant en rallye d'abord, en championnat du monde des rallyes, où il a connu beaucoup d'accidents parce que il a le cœur gros, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il faut bien le dire, le pauvre, il est pratiquement obligé de piloter d'une main ou presque tellement son bras droit est touché. Et alors il travaille hein, autant qu'il peut, mais bon, il n'est pas parvenu en tout cas en rallye à connaître le succès. Donc il s'est remis sur la piste, c'est le cas de le dire, des circuits fermés avec un petit peu d'endurance. Et puis quand même, l'attrait de la F1 était énorme. Alors il est resté troisième pilote chez Williams, donc c'était un petit peu le grand frère des deux débutants que l'on a connus et qui sont partis un peu dans tous les sens cette saison, mais on partait de loin.
Il n'y a pas de raison de ne pas les nommer.
Oui, on va les nommer. Et donc là, ce serait formidable, effectivement, comme on le disait, une histoire fantastique, parce que humaine, d'abord, parce que c'est un type très attachant, encore une fois, très discret, très mesuré. Lui, il fait pas dans le pathos, hein. Il dit, je suis comme ça maintenant, je vais continuer. Et ma foi, peut-être peut-il aider à ramener Williams, qui serait aussi une belle récompense, un petit peu dans les points, parce que là, c'est vrai que ça fait mal au cœur. Eux et McLaren, on le dit tout le temps, deux équipes mythiques de la Formule 1, deux équipes britanniques, les voir à ce niveau-là, ma foi, il y a l'argent, il y a les 20 millions dont tu parlais, mais s'il peut y avoir un peu d'affect aussi, ça nuira pas.
Lucas Villemois.
Oui, il faut un pilote d'expérience, je pense, pour Williams aujourd'hui, pour remettre cette écurie britannique, comme tu le dis, qui a connu tant de succès par le passé dans le droit chemin. C'est très compliqué, mis à part une ou deux courses. Cette saison, ça a été difficile avec un débutant, Sirotkin, et puis avec Lance Stroll, qui n'est, sans lui faire injure, pas le pilote le plus rapide du plateau. Et oui, en plus, l'avantage de Kubica, c'est qu'il va faire venir, bien évidemment, avec lui des sponsors, 20 millions d'euros, mais il est capable aussi de mettre un petit peu la lumière sur cette écurie, parce que presque plus personne n'en parle, les résultats sont tellement catastrophiques. Alors voilà, il va falloir voir aussi la question du troisième pilote qui pourrait éventuellement faire certaines séances d'essai, qui paierait beaucoup très cher pour faire ces séances d'essai, mais il y a urgence, il y a péril en la demeure, et peut-être que pour Williams, Kubica est une bonne solution, d'autant plus que c'est, comme vous l'avez dit, une très belle histoire.
On le dit, on le répète sans arrêt en Formule 1, et ça c'est le principal problème auquel Liberty Media, les nouveaux patrons commerciaux de la F1, doit s'attaquer, c'est réduire les budgets. Dépenser autant d'argent en stupidité comme ces ailerons avant, ces empilages ridicules qui partent en éclats au premier contact, ça ne sert à rien. D'ailleurs, il y a eu une modification très importante de l'aileron avant, et tu le sais bien, et de l'aéro, pour essayer de permettre aux pilotes de dépasser plus facilement ou moins difficilement. Alors, on a le DRS, on le sait bien, qui est totalement arbitraire, mais retrouver une configuration de monoplace qui puisse permettre, et surtout, économiser de l'argent, parce que les heures de soufflerie, ça ne sert à rien, une nouvelle fois. Tout le monde le fait, ça coûte énormément d'argent. Il faudrait carrément diviser par deux ou par trois le budget des équipes de Formule 1, et on pourrait revoir des équipes qui pourraient choisir des pilotes uniquement pour leur talent. Quel bonheur.
Est-ce qu'il y a vraiment, messieurs, pardon de poser la question si directement, mais un intérêt sportif à faire signer Robert Kubica? Est-ce que Williams ne fait pas ça uniquement pour s'offrir un vrai coup de com', une vraie histoire à raconter autour de cette écurie qui est passée un peu dans l'oubli après une saison moribonde?
Je vais donner mon avis, puis Lucas a le sien, bien sûr, on ne s'est pas concerté. Non, je ne le pense pas une seconde, ce serait faire injure à Kubica. Bien sûr que la belle histoire va être là, mais tu sais, ça tombe très vite, hein. Une fois qu'on aura dit, ça y est, il est dans le baquet, qu'on leur a posé trois questions auxquelles il aura répondu sobrement, l'histoire, elle est terminée. Je pense que il a toujours, et il n'a rien perdu de ses qualités de metteur au point qu'il aurait amené donc chez Ferrari avant de connaître cet accident terrible. Donc je pense que non. Et en plus, il travaille avec lui depuis maintenant pas mal de temps. Donc ils ont vu à quel point son apport, même s'il était très limité, était important. Et puis chez Williams, on avait besoin, on l'a rappelé avec Stroll et Sirotkin, on n'avait aucune expérience. On avait deux jeunes fous, je leur tape pas sur le casque non plus, mais qui n'étaient pas en mesure de ramener cette équipe, peut-être avec l'appui plein et entier de Kubica et son argent, mais c'est pas la question. Je pense que c'est quand même pour ses qualités, je l'espère en tout cas de tout cœur.
Je sais pas, je suis plus dubitatif. Je sais pas. Il a fait des
tests. Qu'est-ce que tu veux, je suis toujours idéaliste.
Il avait fait quelques tests avec Renault et pour avoir discuté avec certaines sources de chez Renault, on n'avait pas donné suite, notamment parce que ça posait problème. Il y avait eu des simulations de départ au niveau du temps de réaction. C'était compliqué. Pareil, pour aller chercher un tour très rapide en qualification, peut-être que Robert Kubica, avec son handicap, ne peut pas se rapprocher d'une condition physique maximale qui lui permettrait justement d'aller chercher quelques millièmes, voire les derniers dixièmes. Je suis dubitatif, mais j'ai envie de croire en cette belle histoire, parce que c'est vrai que voilà, c'est un miraculé. Déjà avant le rallye, avant son terrible accident au rallye, il avait connu un terrible accident au Canada. Oui. Je sais pas si vous vous rappelez, où il s'était retourné. Ça avait été terrible. Absolument. En F1. Donc c'est une belle histoire. Maintenant, c'est vrai qu'il faut qu'il soit compétitif, parce que sinon les critiques vont pleuvoir et ça va pas être facile ni pour Williams ni pour lui. Il faudrait pas que le bon coup de pub se transforme en mauvais coup de pub après quelques grands prix.
Et je peux t'en parler longuement, mais je peux même pas tout raconter ici, parce que c'est le docteur Jacques Tropta, qui est un de mes amis intimes, qui était le médecin de la Formule 1 à ce moment-là, qui est intervenu immédiatement sur l'accident de Robert Kubica, qui était un véritable miracle, hein, parce qu'effectivement, lui, il a tapé le rail à plus de 300 km/h, donc sa monoplace était totalement détruite, et il s'en est sorti avec une cheville foulée à l'époque, ce qui est ahurissant, ouais. Ce qui démontre aussi les progrès déjà accomplis par les monoplaces, donc c'était effectivement formidable, et ça a permis effectivement à d'autres pilotes de pénétrer dans le monde de la Formule 1.
Ça devrait être officialisé en début de semaine, l'arrivée de Robert Kubica chez Williams. Dernier Grand Prix de Formule 1 de la saison, le week-end prochain, dimanche, à Abu Dhabi. Tu y seras, Lucas, évidemment, on profite encore un peu de toi quelques jours. Oui, magnifique finale avec un grand suspense, un grand enjeu pour le titre. Oui.
Exactement.
Tu vas nous faire croire ça.
La lutte va être incroyable.
Pour la huitième place.
Ce beau soleil qui va se coucher sur Abu Dhabi, avec le reflet sur les voitures, ça va être fantastique.
Non, mais il y a une victoire en Grand Prix, c'est quand même énorme.
Non, et en plus, c'est un beau circuit, c'est un beau.
C'est un peu la féerie de l'Orient. Voilà.
Benoît, on enchaîne avec la Formule 3 et avec l'image extrêmement spectaculaire. Ouais. On vous invite à aller regarder ça sur les réseaux sociaux ou sur rmcsport.fr.
Un accident terrible, effectivement, au Grand Prix de Formule 3 de Macao. La jeune pilote allemande Sophia Florch, malheureusement, elle a décollé à pleine vitesse dans le virage le plus rapide du circuit. 5 personnes ont été blessées. Elle a été gravement touchée à la colonne vertébrale. Elle a donné des nouvelles rassurantes. Elle va bien, mais elle sera opérée d'urgence demain matin, donc on s'inquiète toujours de son état de santé. L'image, effectivement, est impressionnante. C'est une courbe sur la droite. En fait, elle percute une voiture, la roue arrière d'une voiture. Elle se retourne, elle fait un 180 degrés et à pleine vitesse, elle décolle avec sa voiture et elle va heurter un espèce de rail de sécurité
avec le casque en premier.
C'est vraiment une image hallucinante et on a eu très peur pour elle, en tout cas.
Le problème, ce sont des monoplaces de Formule 3, hein, mais là, on est au bout de la longue ligne droite de Macao, qui est extrêmement extrêmement rapide, puisqu'avec l'aspiration et l'été au milieu du paquet à ce moment-là, effectivement, on est de l'ordre de 270-280
km/h. 276
km/h.
Ouais,
276.
C'est terrible.
Et puis c'est le pire accident, c'est-à-dire que quand les roues s'engrènent, comme on dit, et en Formule 1 ça peut être le cas aussi, quand l'un monte sur l'autre, on va pas évoquer tous les accidents tragiques qu'on a connus, mais je vais citer celui de Gilles Villeneuve que tout le monde a malheureusement vu. Eh bien, la monoplace s'envole, c'est qui a été le cas, et ça a été encore pire dans son cas, parce que malheureusement elle a fait demi-tour.
Ouais.
Donc elle a tapé en marche arrière. Or évidemment tous les engins sont faits pour taper en marche avant, et les capacités d'absorption des chocs sont moins importantes en marche arrière. Donc j'imagine que là, et en plus, oui, on va pas rentrer dans les détails, effectivement, vous pouvez aller sur RMC
rmcsport.fr
pour le voir.
Les images sont au ralenti, elles sont déjà impressionnantes. Alors imaginez
la vitesse.
Et une nouvelle fois, il faut rendre hommage non seulement aux commissaires qui interviennent, et puis je reparle du docteur Jacques Troptin, c'est lui qui est le responsable à Macao de la sécurité. Donc nul doute qu'elle a été prise en charge dans les meilleures conditions. Maintenant, malheureusement, c'est inhérent au sport mécanique. Je l'évoquais avec les motos tout à l'heure, il faut savoir que ça existe. Sur tous les billets aux États-Unis et en Grande-Bretagne, il y a Motor Racing is Dangerous.
Et d'ailleurs, petit détail, mais c'est Dan Ticktum qui s'impose sur ce Grand Prix de Macao.
Une superbe course d'ailleurs, magnifique.
Et info importante, j'ai les images sous les yeux, regardez ça avec Louis Hamar, il pleut à Valence pour le Grand Prix MotoGP. Ça va être un spectacle fantastique.
Sans perspective.
La course qui part à 14h, on vous le rappelle, on va vous la faire suivre évidemment dans l'intégral sport.
Sous haute tension, parce que là aussi, même si le titre est joué, il y a quand même un enjeu considérable. Et puis, encore une fois, ce sont les hommes qui s'affrontent. Que va faire Zarco pour sa dernière course chez Yamaha?
Gagné.
pourquoi pas. Que va faire Marquez, donc blessé quand même à l'épaule et partant du milieu de la deuxième ligne? Et puis que va faire aussi, moi je peux vous le dire aussi, il va remonter comme une balle, c'est une évidence, c'est pas possible autrement.
Et puis que vont faire les commissaires accessoirement, parce que là il commence à pleuvoir sévère sur Valence. Est-ce que ça va partir à 14h pile? Le doute est permis. Juste pour revenir une seconde sur l'accident dont on parlait avec Benoît il y a un instant en Formule 3, ça s'est donc produit, Jean-Luc, à Macao, qui est un circuit, il faut le souligner, extrêmement particulier.
Ah, c'est le Monaco de l'Asie, on peut le dire. C'est une course qui a lieu depuis très très longtemps, depuis les années 50. Donc c'est une tradition. Alors sur ce circuit, il y a des courses de GT, donc les grosses GT. Il y a eu d'ailleurs un empilage l'an dernier, de mémoire. Il y avait 12 voitures empilées. Heureusement, aucune n'a pris feu. Il n'y a pas eu de blessés, mais les pilotes sont beaucoup mieux protégés. Il y a des courses également du WTCR, c'est le nouveau championnat du monde des voitures de tourisme, mais c'est moins rapide et les pilotes sont protégés. Et puis il y a la Formule 3. Et là, il y a le palmarès de cette course de Formule 3 traditionnelle à Macao est extrêmement impressionnant. Tous les meilleurs pilotes se sont imposés là, Senna, Coulthard et qui vous voulez.
Merci Jean-Luc, merci Lucas Vinoy, merci Benoît. Le Grand Prix Moto à suivre dans l'intégral sport dans un instant. Morgan Mori, le ski, on touche au but à la fin de la deuxième manche du slalom, messieurs, allez-y.
Il ne reste plus que 6 concurrents à s'élancer. C'est l'Autrichien Manuel Feller qui est en piste pour ce deuxième run à Lévis. Podium olympique pour l'instant avec André Mir, le champion olympique de slalom 2018, qui est devant le Suisse Ramon Zenhausen, deuxième à 4 centièmes, et troisième le Français Jean-Baptiste Grange, meilleur temps de cette deuxième manche à 15 centièmes d'André Mureur. Mais les cadors arrivent, dont Marcel Hirscher, meilleur chrono du premier exercice, et également deux Français dans deux dossards, Victor Muffat-Jandé quatrième de la première manche et Clément Noël troisième de cette première manche.
Vous ne raterez rien des passages de nos Français, c'est dans un instant avec Christophe Cessieux dans l'intégral sport. Moi je vous retrouve à 16h, à tout à l'heure.